RFI Midi. Anne Cantner.
Les États-Unis maintiennent la pression sur Israël. Ils disent attendre des résultats au lendemain d'un coup de fil entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou. Le président américain a conditionné le soutien de son pays à la livraison d'aide humanitaire à Gaza. Réponse quasi immédiate. Israël promet d'ouvrir le port d'Ashdod et le point de passage routier d'Erez. On en parle avec un fin connaisseur d'Israël et de la Palestine. Bonjour Charles Anderlin.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, vous avez été longtemps correspondant de France 2 à Jérusalem et vous avez écrit « L'agonie d'une démocratie » qui est paru aux éditions du Seuil. Pour l'instant, on en est encore au stade de promesses et Israël parle déjà d'une aide qui serait temporaire seulement. Mais est-ce que selon vous, le gouvernement Netanyahou est en train de céder sous la pression ?
Ben là, je crois qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez, une première réunion du cabinet de guerre s'est déroulée ce matin. Tous les ministres n'ont pas été invités. Et oui, le port d'Ashdod, qui était d'abord fermé normalement le Shabbat, le sacro-saint repos du samedi, eh bien sera ouvert ce Shabbat pour permettre l'arrivée d'aide humanitaire. Et puis, de Jordanie, une centaine de camions sont attendus qui devraient arriver au point de passage d'Erez, qui est tout à fait au nord de la bande de Gaza. Donc oui, les choses avancent. Le ministre qui n'a pas été invité à voter pour ces aménagements de l'aide humanitaire, c'est Itamar Ben-Gvir, le très kahaniste, très anti-arabe, ministre de la Sécurité intérieure, qui est également le patron de la police israélienne. Vous savez, lorsque déjà il a été question de permettre l'arrivée d'aide humanitaire par le port d'Ashdod, des manifestants de droite sont allés manifester pour empêcher le passage, l'ouverture de ce port d'Ashdod à l'aide humanitaire. Eh bien, la police israélienne de M. Ben-Gvir n'est pas intervenue. Donc oui, les choses ont l'air de changer. Comment cela va se passer au niveau de la distribution de l'aide à l'intérieur de Gaza, c'est la grande question. Vous savez que l'aide humanitaire était distribuée notamment par l'organisation américaine World Kitchen.
Dont plusieurs membres ont été assassinés, ont été tués. Ont été tués dans une frappe israélienne cette semaine, qui fait beaucoup réagir. On entendait aussi dans le journal il y a quelques minutes que cette aide humanitaire, de toute façon, ne serait absolument pas suffisante pour répondre aux besoins immenses de la population palestinienne à Gaza pour l'instant. Vous nous parliez d'Itamar Ben-Gvir. Les pressions s'accentuent, notamment à propos de l'aide humanitaire, mais aussi pour un cessez-le-feu à Gaza. Benjamin Netanyahou peut-il avancer dans cette ligne, trouver un accord avec le Hamas et préserver son cabinet de guerre, et notamment les plus radicaux d'extrême droite?
Écoutez, les plus radicaux, c'est lui qui les a fait entrer dans son cabinet. Et s'il le quitte, eh bien tout simplement, on ira vers des élections anticipées, ce dont il ne veut absolument pas, car selon tous les sondages, il perdrait largement le vote et retournerait dans l'opposition. Donc, pas question de renoncer aux deux extrêmes. Maintenant, ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs. Vous savez, au sein même du Likoud, le parti de M. Netanyahou, eh bien, on a des gens qui sont très proches de Bezalel Smotrich, colon radical, qui lui-même habite une colonie et qui est le ministre des Finances, également ministre délégué à la colonisation au ministère de la Défense.
Donc voilà pour l'influence de l'extrême droite, de ses personnalités les plus radicales. Mais les tensions politiques sont quand même de plus en plus vives. Des milliers de personnes ont encore manifesté à plusieurs reprises cette semaine pour demander le départ de Benjamin Netanyahou. L'un des membres du cabinet de guerre, Benny Gantz, a appelé à des élections en septembre, dont vous nous disiez à l'instant que le Premier ministre ne veut pas. Combien de temps est-ce qu'il peut encore tenir ?
Ben écoutez, il tiendra franchement le plus possible. Pour l'instant, les éléments qui lui permettent de rester en poste, eh bien, ce sont les ultra-orthodoxes. Les rabbins ultra-orthodoxes ont décidé de rester au sein de la coalition, dans tous les cas, alors que normalement, la dispense de service militaire des jeunes étudiants d'école talmudique a été annulée par la Cour suprême israélienne. Et donc, les ultra-orthodoxes ne veulent absolument pas envoyer leurs jeunes à l'armée. C'est important parce que le problème à l'heure actuelle concerne le nombre de militaires dont l'armée israélienne a besoin. L'armée a besoin de près de 9000 militaires très rapidement, couvrir les pertes de la guerre, mais également prévoir l'avenir. Or, dans l'état actuel des choses, si les ultra-orthodoxes ne sont pas mobilisés, c'est du personnel qui va manquer. Donc là, c'est la crise, et dans les semaines qui viennent, peut-être les 2 mois, il va falloir trouver une solution. Sans cela, effectivement, les ultra-orthodoxes n'auront pas le choix, et pour résister à ces ordres de la Cour suprême de mobiliser leurs jeunes, eh bien ils finiront par quitter la coalition gouvernementale. Donc effectivement, c'est une coalition à l'heure actuelle plutôt branlante. Les manifestations ont recommencé, elles anti-Netanyahou, elles n'ont pas atteint encore le niveau qu'elles avaient avant le 7 octobre. On avait certaines fins de semaine près d'un demi-million d'Israéliens manifestants un peu partout dans le pays, dans l'ensemble du pays. Donc cela progresse effectivement, mais aujourd'hui, je ne crois pas que ces très importantes manifestations pousseront Netanyahou à la démission.
Merci beaucoup Charles Anderlin d'avoir été en ligne avec nous, ancien correspondant pour France 2 à Jérusalem. Vous avez écrit plusieurs livres sur le Proche-Orient, notamment « L'agonie d'une démocratie » paru aux éditions du Seuil. Merci d'avoir été avec nous.